Nathalie Arthaud, nous allons commencer cette émission avec le traditionnel Wikiportrait. Vous ne connaissez peut-être pas, j'ai cherché des informations sur vous, votre parcours, vos engagements surtout, et on va vérifier ensemble si tout cela est vrai. Vous êtes née en février 1970, ce qui fait de vous la deuxième candidate la plus jeune à vous présenter à cette élection présidentielle, juste derrière Emmanuel Macron. Mais vous êtes surtout agrégée d'économie et de gestion, vous enseignez d'ailleurs dans un lycée. Comment est-ce qu'on concilie une campagne présidentielle et une carrière d'enseignant ?
Eh bien, par exemple, aujourd'hui, j'ai travaillé la matinée au lycée Le Corbusier à Aubervilliers. Et puis, j'ai fait une petite pause et puis je me suis lancée dans l'après-midi sur les interviews. Voilà, on se met en temps partiel. Hein, et puis, on organise son agenda quand on va en province, y compris pour faire les longs déplacements, quand on a deux jours. Voilà, c'est effectivement, on jongle. Hein, on jongle. Honnêtement, j'aurais très bien pu prendre une année sans travailler. Voilà, lutte ouvrière aurait aurait pris le relais et j'aurais pu faire cette campagne complètement libérée de mes obligations professionnelles. Mais c'est un choix parce que ma vie c'est celle-là. Je gagne mon pain comme ça en étant prof. J'ai jamais été payé hein, pour mes activités militantes et puis c'est un équilibre. Voilà, c'est un équilibre tout simplement. Donc j'ai préféré effectivement garder ce temps partiel et puis jongler pour faire cette campagne.
Vous l'avez dit, vous enseignez en Seine-Saint-Denis, à Aubervilliers, exactement. Alors, on en a beaucoup entendu parler, ce département, malheureusement, récemment, après l'arrestation musclée du jeune Théo dans le 93, le département a connu des émeutes. Vous en avez parlé, justement, à vos élèves, de ça ?
On n'a pas eu l'occasion d'en discuter, hein, mais je sais que, pas avec mes élèves, mais je sais que ça a créé, effectivement, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions, un sentiment d'injustice profond. Mmh. Hein, je crois qu'il y a des centaines de milliers de jeunes, aujourd'hui, qui attendent que la justice soit faite, voilà, qui attendent une condamnation claire et nette, hein, de cet acte qui est manifestement raciste, qui a été d'une brutalité inouïe, hein, une volonté de blesser, d'humilier, de rabaisser, et ce qu'on entend de la part des dirigeants des grands partis, c'est pas du tout ça, hein, c'est qu'il faut comprendre, il faut revoir le contexte, il faut appliquer la présomption d'innocence, hein, n'est-ce pas ? Bon, moi tout ça, ça me révolte, hein, parce que la présomption d'innocence, elle n'est jamais appliquée à cette jeunesse.
Mais hein. Vous, Nathalie Arthaud, qui êtes face à des jeunes, souvent, puisque vous êtes prof, eux, ils ont comme prof une candidate à l'élection présidentielle, ils n'ont pas envie d'en discuter avec vous, pour mieux comprendre ?
Mais alors, moi, j'ai eu 4 heures de cours ce matin, je travaillais pas lundi, donc on n'a pas eu beaucoup d'espace pour discuter. Une de mes obligations, justement, en étant en campagne, c'est aussi que je ne traîne pas quand la sonnerie retentit, et que c'est un peu la course, je dois l'avouer.
Alors aujourd'hui et depuis 2008, vous êtes la porte-parole nationale de lutte ouvrière. Vous avez été leur candidate déjà il y a 5 ans en 2012, avant de l'être à nouveau cette année. Alors lutte ouvrière, pour ceux qui connaissent moins, se veut ouvertement communiste. Pourquoi vous, qui avez fait 0,56% il y a 5 ans, vous ne voudriez pas rallier d'autres candidats pour une alliance et peut-être espérer un meilleur score ?
Mais lesquels ?
Par exemple, je sais pas, Jean-Luc Mélenchon, Philippe Poutou.
Alors Jean-Luc Mélenchon ne défend pas du tout la même politique que moi.
Vous pouvez avoir des intérêts communs sur certains points.
Sur l'essentiel, en fait, il y a un fossé hein, qui nous sépare. Ce simple fait déjà de faire croire qu'il suffirait d'élire un nouveau président de la République pour que miraculeusement on trouve de l'argent pour tout, créer des emplois, la santé, etc. Mais sans...
Ça c'est le principe de la 5ème République.
Ça ce sont des mensonges électoraux. Voilà, c'est de la comédie électoraliste. La réalité, c'est que pour lutter contre les licenciements, contre le chômage, pour lutter contre les bas salaires, pour lutter contre le recul de la condition ouvrière, il faut imposer hein, au grand patronat, à ces grands groupes capitalistes qui sont richissimes, de payer, de prendre sur leurs profits. Cela signifie donc un rapport de force, un bras de fer à engager avec eux. Et cela, je ne l'entends pas dans la bouche de Mélenchon. Hein, Mélenchon nous explique qu'il a trouvé la clé magique hein, pour relancer l'économie et puis que tout ça, ça va marcher, etc.
C'est ce qu'ils disent tous, pas que Mélenchon.
Alors, bon, Mélenchon, c'est la politique de la relance.
C'est le principe de la campagne, souvent.
Mais oui, mais justement, bah moi je le dénonce parce que ce qu'on constate, c'est que d'élection en élection, hein, de président de la République en président de la République, au bout du compte, c'est toujours les mêmes, hein, qui sont servis, qui sont dont les intérêts sont sont défendus, et c'est cette classe capitaliste, hein, les plus riches, qui possèdent effectivement les grands groupes de l'industrie, du commerce, de l'énergie, les secteurs bancaires, c'est toujours cette classe capitaliste, hein, parce que au bout du compte, il y a quand même quelque chose qui est commun à tous ces principaux candidats, hein, Mélenchon, Hamon, à Fillon, Le Pen, Macron, hein, c'est qu'ils considèrent tous que l'économie repose sur cette classe capitaliste et qu'il faut faire en fonction de leurs desiderata, en fonction de leurs intérêts. Il faut d'abord, hein, que cette classe prospère, hein, pour qu'ensuite on envisage éventuellement une amélioration des conditions de vie des salariés, des chômeurs, etc. Eh bien ça, moi je pense exactement l'inverse. Hein, je pense que cette classe capitaliste, elle est un obstacle, elle est devenue parasitaire, purement parasitaire, parce qu'elle possède des capitaux effectivement énormes, monstrueux. Et qu'est-ce qu'elle en fait ? Eh ben c'est des caprices de riches d'un côté, c'est de la spéculation. En veux-tu, en voilà, et finalement c'est une classe qui est même devenue nuisible à l'ensemble de l'économie, parce que c'est effectivement cette menace aussi de crack généralisé qui est suspendue sur nos têtes. Alors,
pour battre cette classe nuisible, comme vous dites, vous défendez le communisme avec Lutte Ouvrière. Concrètement, parce que vous avez une phrase, hein, sur le site de Lutte Ouvrière qui dit, je cite, rien à voir avec les caricatures sanglantes de Staline, Mao ou encore la Corée du Nord, on est bien loin de ça. Concrètement, c'est quoi le communisme en 2017?
C'est simplement l'idée que tous ces grands groupes capitalistes, hein, dont on connaît les noms, dans l'industrie c'est Peugeot, c'est Renault, c'est Toyota, dans l'énergie on a Total, on a EDF, la BNP, SFR, enfin tous les grands, ces grands groupes capitalistes font l'économie. Hein, ils dominent l'économie. En réalité, c'est quelques 200 groupes, hein, en France qui font quasiment un tiers de la production et dont dépendent des millions d'entreprises moyennes et plus petites. Ben nous disons que ces grands groupes-là devraient être gérés de façon collective, appartenir à l'ensemble, hein, de la population.
Pour mieux partager.
Ils devraient, que les capitalistes qui possèdent des capitaux devraient être expropriés de cette propriété-là, des moyens de production, et qu'effectivement, collectivement, il faudrait gérer collectivement ces grands moyens de production, parce qu'on les gérerait en fonction de l'intérêt collectif, en fonction de l'intérêt des travailleurs qui travaillent, évidemment, mais aussi en fonction des intérêts des consommateurs, en fonction des intérêts de la population, en fonction des intérêts, y compris de la préservation de l'environnement.
Nous reviendrons justement là-dessus un peu plus tard dans l'émission. On sera avec Martin Juret, Samuel Saint-Sinatus pour plus développer justement ce communisme que vous défendez avec Lutte Ouvrière. Pour clôturer cette première partie d'émission, Nathalie Arthaud, j'ai des petites questions et je vous demanderai à ce que vos réponses le soient également. Combien de promesses de parrainage avez-vous ?
Nous, on ne communique pas sur les promesses.
Pourquoi
parce que
pas ?
Parce que ce qui compte, c'est les formulaires officiels. Et on va les compter à partir de lundi prochain.
Hein, vous avez des promesses, vous avez déjà rencontré des maires.
On a des contacts, on a des discussions, on va continuer jusqu'au bout. Notre travail avance bien, il avance comme en 2012. Bon, donc moi,
au moins 500 promesses.
Je suis confiante, mais encore une fois, c'est tant qu'on n'a pas les formulaires officiels et tant que ça se traduit pas en enregistrement au Conseil constitutionnel,
en termes de promesses,
on n'est pas en mesure de se présenter. Donc non, nous on fait la part des choses.
Et si vous avez plus ou moins de 500?
Bah encore une fois, vous n'aurez pas de chiffre parce que
je demande pas un chiffre. Je demande si vous avez plus ou moins de la barre légale pour pouvoir être candidate.
Ce ne sont pas ces chiffres-là, hein, le type de relation qu'on peut avoir avec les maires, qui sont comptabilisés. Ça n'a pas de sens. Donc de toute façon, vous savez, moi je vois bien que je suis pas invitée dans les grands médias. Ils disent oui, mais on attend les parrainages, etc., etc. Bon bah, dont acte, nous aussi, on se battra pour les avoir.
Second sujet international, Trump, le Brexit, Marine Le Pen en tête des sondages. Est-ce que vous croyez vraiment à un retour du communisme dans un avenir proche ?
Non, mais moi, ce pourquoi je me bats dans cette campagne, hein, c'est tout simplement pour que les intérêts des travailleurs, des ouvriers, des chômeurs s'expriment. hein, pour que tous ceux qui aujourd'hui en prennent plein la figure parce qu'à cause de ces licenciements, du blocage des salaires, à cause des cadences qui sont devenues infernales, à cause de ce chantage patronal, hein, à toujours plus de compétitivité, il faut toujours travailler plus, gagner moins, hein, eh bien qu'on dise ça suffit, que tous ceux qui n'en peuvent plus de cela, hein, l'expriment, le disent, on ne marche plus là-dedans, ça suffit. En réalité, hein, toute cette politique-là, elle est là pour justifier qu'une minorité accapare toujours plus de richesses. Donc nous sommes confiants, nous sommes conscients de nos intérêts, du combat que nous avons à mener, et nous les mettons en avant. Donc moi j'invite, j'appelle les travailleurs dans cette élection à dire il faut se battre pour un travail et un salaire pour tous, pour un minimum de 1 800 € par mois, pour qu'on ait accès aux comptabilités des entreprises et de l'argent qu'il y a dans ces grands groupes capitalistes. Donc voilà, c'est mettre en avant des objectifs, des revendications. Hein, il faut d'abord être conscient de la légitimité de ses droits si on veut pouvoir se battre.
Un autre candidat, un petit nouveau en politique, Emmanuel Macron. Est-ce que vous pensez que c'est une alternative crédible?
Non, mais d'abord, ce n'est pas un petit nouveau en politique. Non seulement il a été
par rapport à certains aussi.
Il a été au cabinet de Hollande. Hein, il a travaillé en sous-main à toutes les attaques anti-ouvrières qui ont été prises par le gouvernement Hollande. Et ensuite, il est devenu quand même ministre de l'économie
lors des 5 dernières années. Hein, donc ça fait de lui un petit nouveau.
Oui, mais un petit nouveau qui a fait ses preuves, n'est-ce pas, au gouvernement,
temps,
quand il avait le pouvoir. Et ce petit nouveau, bah, il a mené effectivement une politique contraire aux intérêts des travailleurs. Alors moi, je veux bien qu'on revienne en expliquant qu'on a des idées toutes neuves, toutes fraîches, etc. Qu'est-ce que c'est ces idées neuves? C'est de remettre des bus sur la route. Oh là là, quelle
donc ce n'est pas une alternative crédible. Ça répond à ma question. Au Liban, maintenant, auriez-vous porté le voile ou est-ce que vous l'auriez refusé comme Marine Le Pen l'a fait aujourd'hui?
Non, mais moi, je veux pas me mettre sur le même plan que Le Pen. Hein, je suis à l'opposé.
Donc, pas sur le même plan. Est-ce que vous auriez accepté de le porter?
La situation dans laquelle elle s'est mise, de toute façon, c'était un calcul politique. Elle voulait faire une démonstration. Hein, c'est ça la réalité.
Elle est venue pour le refuser, c'est ça que vous voulez dire?
Mais bien sûr, parce que quand on rencontre, je sais pas, elle devait rencontrer
le moufti.
Le moufti. Bon, elle savait pas que c'était la procédure, etc. Bien sûr que si. Elle a voulu faire une démonstration, c'est de la démagogie pure et simple. Alors moi, j'ai rien à voir avec tout ça.
Vous l'auriez accepté ou pas?
Non, mais moi, je suis contre le port du voile. Hein, je pense que c'est
donc vous l'auriez pas accepté.
Que le voile. Mais surtout, j'aurais pas joué ce jeu-là démagogique. Encore une fois, c'est de la comédie électorale, ça.
Dernière question, répondez-moi en une phrase. Pourquoi est-ce que vous ferez plus que 0,56% cette année?
Eh bien, je peux pas vous dire que je ferai plus. Je peux vous dire que je me battrai pour que les centaines de milliers de femmes et d'hommes qui veulent dire tout le mal qu'ils pensent de cette société capitaliste, qui veulent affirmer qu'ils ont des droits et qu'ils se battront pour, eh bien, le puissent le dire au travers de ma candidature. Je me battrai pour que leur voix porte le plus possible.
Hier matin sur LCI, il a même annoncé qu'il vous soutiendrait au premier tour. Et donc, il s'est également exprimé sur le candidat d'En Marche et l'utilisation du terme « crime contre l'humanité » qu'il trouve justifié en fonction de son contexte.
Tout dépend. Est-ce qu'on parle de la colonisation en général? Et là, il n'y a pas de débat. Crime contre l'humanité massif. Si on parle de la colonisation algérienne, il faut quand même entrer dans les nuances et les subtilités. Or, je trouve que il ne l'a pas fait, Macron, et surtout, il l'a fait en Algérie comme s'il fallait donner des gages en permanence à celui qui est assis en face de vous. C'est-à-dire qu'on dirait qu'il n'y a pas de conviction, mais simplement qu'il faut aller dans le sens de celui qui vous interroge.
Nathalie Arthaud, est-ce que dénoncer la colonisation et utiliser le terme de crime contre l'humanité, pardon, est-ce le rôle d'un candidat à l'élection présidentielle en 2017?
Bon, je suis candidate à l'élection présidentielle et quand on m'interroge, je défends mes convictions, hein, tout simplement. Voilà. Bon, là, y compris Macron, mais c'est comme Le Pen avec son histoire là, de voile. C'est des coups effectivement de communication. C'est calculé. C'est démagogique. Voilà. Mais si vous me demandez ma position par rapport à la colonisation, je vous dis oui, la colonisation est un crime contre l'humanité.
Vous dites oui au propos d'Éric Nolot qui dit qu'il faut pas qu'il adopte un discours en fonction des personnes à qui il s'adresse.
Ah bah ça c'est clair, ça s'appelle de la démagogie, ouais.
Excusez-moi, pardon. Henri Gannot, député Les Républicains, était lui aussi présent sur le plateau de LCI hier matin.
On va écouter Henri Guénot tout de suite.
François Fillon aujourd'hui, en refusant de céder la place, en refusant de partir, dit en gros, écoutez, si je coule, vous coulerez tous avec moi. C'est une forme de suicide collectif, c'est-à-dire qu'il entraîne les autres.
Le député a même ajouté que la présidentielle était chaotique, un rendez-vous manqué avec les Français. Est-ce que les Français voulaient du changement en 2017? Est-ce que vous pensez qu'ils vont en avoir?
Mais le changement, d'abord, de toute façon, ça ne veut rien dire, hein, le changement. J'entends les uns les autres se réclamer d'être anti-système. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le système? Hein, si c'est effectivement balayer cette classe politique qui squatte le pouvoir depuis des décennies, la remplacer par une autre qui a exactement les mêmes mœurs, les mêmes idées, la même politique, ce sera pas du changement. Hein, donc si on parle de système et de changer, il faut penser quand même au système capitaliste, à ce système qui est fondé sur l'exploitation, qui fait qu'il y a deux mondes, un monde très riche qui prospère, qui détient le capital et qui peut imposer sa loi sur l'ensemble du monde du travail, sur les ouvriers, sur les chômeurs. C'est ça la réalité de ce système.
Donc l'anti-système que les candidats veulent prôner est un peu le système d'aujourd'hui.
Ah mais complètement, d'ailleurs, ils sont dans le système de A jusqu'à Z, enfin bon, c'est les chouchous du système d'ailleurs, et des médias en particulier, on y reviendra peut-être tout à l'heure.
Pas tous.
Dans les colonnes du Figaro samedi, François Fillon a parlé d'actualité de ses concurrents et également des conséquences de l'affaire Pénélope. Rappelez-vous, François Fillon a toujours défendu un président de la République ne peut et ne doit être mis en examen. Il l'a rappelé dès le début du scandale révélé par le Canard Enchaîné en janvier dernier. Mais aujourd'hui, un tout nouveau discours arrive. Le candidat de la droite et du Centre est opposé à son retrait, même s'il est mis en examen. Selon lui, plus on s'approche de la date de l'élection présidentielle, plus il serait scandaleux de priver la droite et le Centre d'un candidat. Avant d'ajouter qu'il était candidat et qu'il ira jusqu'à la victoire, doit-il se retirer?
Ouais, il fera ce qu'il voudra, mais on note, hein, c'est un mensonge, voilà, et c'est pas le premier. C'est pas le premier, parce que si Fillon était élu, hein, eh bien, effectivement, il jetterait aux orties, y compris les quelques engagements qu'il peut faire là par rapport à la santé. Par exemple, j'ai entendu aujourd'hui qu'il s'était avancé. Hein, une fois au pouvoir, il nous expliquera que ce n'est plus possible, qu'il n'avait pas mesuré, mais qu'en réalité, il n'y a plus d'argent et que tout ça, il faut dérembourser, etc., etc. Donc voilà, les promesses de politiciens n'engagent que ceux qui y croient. Hein, ils mentent comme des arracheurs de dents, tous ces gens-là. Donc il faut pas les croire. Et je crois que Fillon, quand même, devrait être disqualifié, hein, aux yeux en tout cas des classes populaires, parce que bon, son attitude, son comportement, hein, est proprement scandaleux.
Dans l'affaire, on remet beaucoup en cause le travail des journalistes. Est-ce que la liberté de la presse est menacée ou pas?
Oh, je crois pas que la liberté de la presse soit menacée, non, je crois pas. Mais effectivement, je l'ai entendu parler d'acharnement, de lynchage médiatique, hein, Fillon. Bon, il se plaint qu'il soit obligé de rendre des comptes, mais moi je trouve ça normal. Qu'il soit obligé de rendre des comptes. Il est président de la République, hein. En plus, on nous joue.
Il prétend à l'être,
oui,
en tout cas.
Hein, pardon. Il se présente pour l'être. Il nous explique tous que, cette élection, c'est la rencontre d'un homme et d'un peuple. Bon, qui rendent des comptes. Vous savez, quand on cherche du boulot, hein, quand on est au chômage, on doit rendre des comptes tous les jours sur les recherches qu'on fait. Quand on est salarié, qu'on est malade, on doit rendre des comptes sur sa maladie. On est contrôlé. Il y a des, y compris quand on a une maladie grave. Donc quand on est salarié, on en rend des comptes tous les jours. Hein.
Nous sommes maintenant à 4 jours de l'ouverture du Salon de l'agriculture. Bruno Parmentier, économiste et ancien directeur de l'École supérieure d'agriculture d'Angers, s'est exprimé sur France Info sur les enjeux de l'agriculture hier matin. Il a expliqué l'abandon des agriculteurs à l'encontre de la politique française.
Le système politique qui, depuis les années 60, avait quelque part modernisé l'agriculture en la soutenant, maintenant on considère que tout ça c'est ringard, on n'a plus envie de soutenir l'agriculture. Donc c'est assez logique que les agriculteurs soient désabusés.
Selon le journaliste de France Info, un exploitant agricole sur deux n'ira pas voter. Comment pouvons-nous intéresser les exploitants agricoles à la politique française aujourd'hui?
Non mais moi quand j'entends là par exemple l'intervention, il parle d'un système politique. Mais en réalité, les petits agriculteurs, les petits paysans, parce qu'on peut pas parler des agriculteurs comme une généralité. Il y a des petits et il y a des gros. Des industriels de l'agriculture, ça existe aussi. Hein. Mais l'agriculture et les petits, les travailleurs de l'agriculture, hein, eh bien, effectivement, ils meurent de la domination des gros. et de la loi du plus fort, de la loi effectivement des semenciers d'un côté, de la grande distribution de l'autre. Donc c'est toujours pareil. On est dans un système capitaliste, c'est la loi de la jungle. Et c'est les plus gros qui mangent les petits. Voilà le problème des petits agriculteurs, comme le problème de bien de petites entreprises.
Merci Nathalie Arthaud.
Merci Mathilde Moreau.
20h, 21h, c'est 2017 l'invité sur Fréquence ESJ et Radio Air Show.
Vous le disiez en début d'émission, on va s'intéresser au principal point de votre programme, Nathalie Arthaud, celui de lutte ouvrière également, c'est les droits des travailleurs, et c'est avec Martin Juret. Bonsoir Martin.
Bonsoir Nathalie Arthaud, et oui, on va revenir sur vos grands thèmes pour la présidentielle, et le principal c'est bien évidemment le combat pour défendre la classe ouvrière, puisque c'est le fondement de votre parti, et vous voulez, Nathalie Arthaud, assurer un travail à tout le monde, mais comment vous faites pour y arriver? Vous réduisez le temps de travail encore?
Alors d'abord, première mesure qui me paraît quand même de bon sens, c'est qu'on arrête l'hémorragie. C'est-à-dire, on arrête les suppressions d'emplois, les licenciements, qui continuent, hein, dans tous les grands groupes, y compris qui font beaucoup, beaucoup d'argent,
qui sont bénéficiaires. On arrête les licenciements pour toutes les entreprises, même en difficulté financière.
Non, mais, à commencer par ces grands groupes, parce que vous voyez, quand on fait la liste EDF, SFR, c'était 5 000, EDF, c'est 4 000, 5 000, PSA, ils ont supprimé 17 000 emplois en 3 ans, vous avez des suppressions d'emplois sur la BNP Paribas, qui annonce des milliards, enfin, hein, oui, 5, 6 milliards de bénéfices, c'est vrai pour Sanofi, c'est vrai pour quasiment tous les grands groupes, donc déjà qu'on arrête à faire, ces grands groupes sont les plus grands fabricants de chômeurs, au bout du compte.
Mais pour les entreprises donc, en difficulté financière, parfois c'est alors, la dernière solution à regret, mais pour survivre.
Eh bien, il faut regarder, ça dépend. Vous savez, encore une fois, moi je vous ai cité la liste de grands groupes. On peut citer la liste de plein de filiales de ces grands groupes qui font exactement la même chose, parce que c'est une politique qui souvent n'est pas mise en place pour des difficultés financières, mais qui sont mises en place parce que cette classe capitaliste en veut toujours plus. Toujours plus de profits, etc. Donc après, vous me dites, mais dans l'économie, il y a des entreprises qui souffrent, qui sont plus petites, qui sont, etc. Bon, ok. Mais moi, je suis pour...
Donc, au cas par cas, en fait.
Je suis pour supprimer, donc pour interdire cela. Et je suis pour qu'on regarde, effectivement, les comptes des entreprises. Pour moi, ça va de pair. Hein, de ces grands groupes, y compris de ces entreprises PME, voire plus petites, qui se disent en difficulté, et qu'on regarde, elles sont en difficulté pour quelles raisons? Est-ce que c'est parce que les banques les étranglent? Est-ce que c'est parce que leur donneur d'ordre leur impose des prix léonins dans leurs contrats commerciaux? Pour quelles raisons? Voilà, parce que je sais aussi que les petites entreprises... Elles souffrent pas de cela. Elles souffrent en fait souvent des conditions de concurrence qui sont imposées effectivement par les plus gros.
Et concernant le temps de travail hebdomadaire, vous le réduisez?
Donc je pense effectivement que à côté de ça, il faut répartir le travail entre tous. C'est-à-dire que il faut, au lieu de concentrer le travail sur de moins en moins de salariés,
et on passe à combien?
Qu'on le répartit.
32 heures en
on
moins.
Le passe à ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas un seul chômeur.
C'est combien ce qu'il faut? C'est.
Eh bien. Ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas un seul chômeur. Donc peut-être que c'est 30 heures, peut-être que c'est 28 heures par semaine, peut-être que c'est 25 heures par semaine. Mais en tout cas, nous disons que voilà, dans cette société, si on n'a pas un emploi, on peut pas vivre dignement. Et un emploi, un salaire, c'est un droit qui doit être imprescriptible. Voilà, qui est un droit élémentaire. Et c'est même le seul droit, en fait, quand on est exploité, que d'accéder à un emploi. Donc, effectivement, on réduit le temps de travail jusqu'à ce que y ait zéro chômeur. Et puis, vous savez, sans même parler de ça, je tiens quand même à rappeler qu'il y a des emplois à créer. Il y a des emplois à créer dans les transports, dans les hôpitaux, dans l'éducation nationale, dans beaucoup de collectivités locales. Il y a des emplois à créer parce que on voit dans quel état sont les services publics.
Mis à part les salaires, les emplois, certains parlent de revenu universel. Ça peut être une idée. Vous qui prônez l'emploi, donc le travail pour obtenir de l'argent, est-ce que le revenu universel, ça peut être une solution en plus?
Ben moi, je crois que le revenu universel qui est conçu pour dire ben voilà, demain il y aura beaucoup plus de chômeurs parce qu'il y a de la modernisation, etc. C'est finalement un discours qui prêche en quelque sorte le fatalisme, la résignation. Et moi, ça me fait pas rêver un revenu universel, parce que aucun travailleur, aucun chômeur même, ne rêve d'être assisté. Non, je crois que l'objectif, c'est un emploi et un salaire pour tous.
Alors,
voilà.
Emploi,
chacun doit pouvoir participer à la production.
Un travail pour tous et un salaire minimum plus élevé. Vous voulez l'augmenter à 1800 euros. Est-ce que c'est pas un risque d'augmenter le coût du travail et de pénaliser notre industrie, nos entreprises?
1800 euros net par mois. Ouais, ouais, tout à fait. Et ben, quand on verse des salaires de 300 millions par an à des PDG, quand on verse des milliards aux actionnaires, on se pose pas le problème de savoir si c'est supportable par grands groupes capitalistes.
Ça, c'est pour les grands groupes. Il y a aussi
les
PME, les TPE.
Bien sûr, mais écoutez, je veux bien qu'on parle que des PME et des TPE, mais on ne parlera que finalement ce qui fait ce qui pèse le moins, parce que notre économie, elle est faite par les grands groupes. Ce sont ces grands groupes qui d'abord emploient un tiers des salariés, qui réalisent la moitié de la production, de qui dépendent toute l'économie. Donc moi, je suis pour prendre le problème par ce bout-là. Et quand on voit que ces grands groupes, effectivement, ils trouvent, des milliards, des milliards pour arroser effectivement les actionnaires, je suis désolée, mais trouver 1800 euros net à Peugeot, à SFR pour payer leurs ouvriers et leurs employés, ça devrait être un minimum.
Notre économie, elle est aussi mondialisée, vous le savez bien, vous êtes professeur d'économie. Est-ce que ces grandes entreprises, ces grands groupes vont pas s'installer ailleurs, quitter la France?
Mais ça, ils feront effectivement...
Mais c'est un problème.
Mais justement...
Avec les taxes et que les impôts, ils rapportent aussi beaucoup d'argent à l'État?
Non, alors non, parce que vous voyez, les mêmes groupes dont je vous ai parlé, ils payent quasiment pas d'impôts.
Est-ce que c'est pas là justement qu'il faut aller chercher
zéro impôt? Après, vous me dites oui, mais ils partiront. Eh bien, nous sommes pour imposer, pour mettre des mesures coercitives, et que si ces gens-là veulent effectivement partir, eh bien, de toute façon, les entreprises sont là, les comptes, les coffres forts, sont là, eh bien, il faut effectivement les réquisitionner. Ça ne les intéresse pas, de les faire tourner sans prélever leur dîme dessus, eh bien, nous, collectivement, les travailleurs, l'ensemble de la population, la société, ça nous intéresse. Donc, effectivement, il faut absolument mettre en place des mesures coercitives, parce que sinon, vous savez, où va-t-on, avec ce discours-là? Moi, j'ai en tête,
une dernière chose.
Oui, au Bangladesh, il y a eu une grève des ouvriers il y a de cela un mois et demi. Ils se battaient pour un salaire passé à 120 euros par mois de salaire. Et qu'est-ce qu'on leur a dit? On leur a dit, attention, ça va faire dégringoler la compétitivité du Bangladesh. Donc, vous voyez, avec ce discours-là, eh bien, on creuse notre propre tombe. Donc, il faut pas marcher là-dedans.
C'est une première. Le 20 mars, sur TF1, 5 candidats s'opposeront dans un débat en vue de la présidentielle. On parle de Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron et François Fillon. Cette idée pose cependant un problème démocratique. Certes, ces candidats sont supposément les plus à même d'être élus en avril, mais pourquoi les autres n'ont-ils pas été invités? C'est ce que souligne Marine Le Pen sur Twitter, qui souhaiterait que tous les candidats qui ont obtenu leur parrainage y participent. Dupont-Aignan parle, lui, de viol démocratique. Alors, Nathalie Arthaud, déjà, avez-vous reçu une invitation à ce débat?
Non. Non, pas du tout. Apparemment, je suis pas sur la liste.
Effectivement. Et donc, qu'en pensez-vous, tout simplement?
Je pense qu'effectivement, c'est ça, leur conception de la démocratie. Ce sont les médias qui vont décider, finalement, de qui est candidat. TF1. Mais vous savez, en réalité, ce débat, tel qu'il se présente, je peux vous dire que c'est la démarche de quasiment tous les grands médias jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire de considérer qu'il y a un peu deux campagnes parallèles. Il y a la campagne des principaux candidats, des grands candidats qu'on relaye, à qui on donne la possibilité de s'exprimer en long, en large, en travers.
Regardez, pendant les primaires, par exemple, il y a eu tous les candidats. Il y a eu Jean-Luc Benamias à droite, il y a eu Jean-François Copé à gauche, et Jean-François Copé à droite. Ils n'ont même pas fait 1%. Tous été invités. Pourquoi est-ce que pendant la présidentielle, on a...
Non, mais attendez, je ne suis pas en train de justifier. J'ai dénoncé.
Non, mais les médias ont invité tout le monde.
Je dénonce ce que veut faire TF1. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, y compris dans la période où il y avait ces primaires, il n'était absolument jamais question des autres courants. hein, que en fait cette campagne depuis déjà le début, depuis septembre, hein, moi depuis septembre je sillonne le pays, etc. Bon, eh bien je n'ai accès à aucun grand média, c'est tout simple. Donc cette campagne entre les grands candidats et puis de l'autre côté les petits, hein, qui se débrouillent, qui se démènent avec leur parrainage, avec leurs difficultés diverses et variées. Bon, c'est deux campagnes qui sont complètement séparées. Et effectivement, du coup, bah, l'organisation de ce débat, c'est le reflet. C'est le reflet de cette campagne-là, telle qu'elle est menée aujourd'hui, telle qu'elle est menée par les grands médias. Et effectivement, moi, je trouve pas ça normal. Je trouve que c'est grossier, que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les grands partis, hein, veulent verrouiller, hein, ils sont gênés parce que quand il y a des voix discordantes, quand il y a d'autres points de vue qui se font entendre, et en particulier quand il y a des points de vue qui viennent effectivement des travailleurs, des exploités, des chômeurs, quand il y a des gens qui ne jouent pas leur comédie électorale, qui les dénoncent comme des démagogues, qui pointent leur responsabilité dans la politique passée, ça apparemment ils n'ont pas envie, hein, ni eux ni les médias, et puis les institutions elles sont faites comme ça, elles sont faites effectivement pour offrir le monopole de la parole à une caste politique qui est très fermée, effectivement. Donc c'est ça la réalité. Bon ben nous on se battra parce que effectivement, vous savez, tous les jours quand on est un salarié, quand on est un employé, eh bien on nous demande une chose, de bosser et de se taire, de la fermer. Eh ben nous, dans cette élection, nous disons, bah non, il faut qu'on l'ouvre, il faut qu'on dise ce qu'on pense, il faut qu'on dise notre colère, il faut qu'on dise ce qu'on pense de cette société capitaliste, il faut qu'on avance nos revendications, nos objectifs, qu'on se réunisse, qu'on les dénonce, hein, et il faut se battre pour cela. Moi, je ferai tout pour être candidate de façon à ce que cette voix-là, elle puisse se faire entendre.
Merci Lucas Pierre pour ce court agenda politique de la semaine.
20h, 21h. C'est 2017 l'invité sur Fréquence ESJ et Radio Air Show.
Je vous le disais en début d'émission, Samuel Cincinnatus est là, comme tous les mardis. Bonsoir Samuel, vous vous êtes intéressé de près au programme de notre invité Nathalie Arthaud et surtout sur la complexité d'une campagne pour ces « petits » entre guillemets candidats.
Bonsoir Nathalie Arthaud. Alors on va revenir très rapidement sur les 500 signatures. L'année dernière, vous en avez eu 521 signatures. Est-ce que vous êtes...
Il y a 5 ans.
Voilà. Et est-ce que vous êtes certaine de participer à l'élection cette année?
Non, je ne serai pas certaine jusqu'au dernier moment. Encore une fois, la recherche de parrainage, qu'est-ce que c'est? C'est des relations, c'est des contacts avec des maires avec qui on discute, qui s'engagent, parfois sur des promesses écrites, parfois oralement. Donc c'est tout un travail, hein, de lien que nous faisons, qui avance bien, qui avance comme en 2012. Donc moi je suis confiante, et quand les formulaires officiels tomberont, bah, j'espère bien qu'on arrivera à 500.
Il y a eu de nouvelles règles pour avoir les parrainages, notamment la fin de l'anonymat pour les élus. Est-ce que ça vous a un peu gêné, cette nouveauté?
Il n'y a jamais eu l'anonymat pour les parrains, parce qu'en réalité il y avait sur les parrains qu'on déposait au Conseil constitutionnel 500 qui étaient tirés au sort et qui étaient donc publiés. Mais comme nous...
Mais il en restait plein d'autres qui n'étaient pas...
Ça dépend pour qui. Pour Ségolène Royal, je crois qu'elle en avait déposé 4000, mais nous, si on en dépose 530,
ouais.
Ils sont quasiment tous publics. Ouais.
En revanche, il y a une nouvelle règle.
Pour nous, ça change pas grand-chose, ça.
Les élus doivent déposer eux-mêmes désormais.
C'est ça. Non. La difficulté qu'on a, d'abord, c'est qu'on ne peut plus faire la collecte nous-mêmes des formulaires officiels, et donc on ne peut plus les compter en temps réel. On est dépendant de leur enregistrement auprès du Conseil constitutionnel. Ça va nous faire perdre du temps. Et puis dernière chose qui nous scandalise, c'est que normalement les formulaires officiels devaient être envoyé jeudi 23, hein, c'est-à-dire après-demain. Et là, ils ont pris du retard, ils seront envoyés que samedi 25. Donc, ils arriveront quand dans les mairies? On ne sait pas. Lundi, mardi. Mais en tout cas, ça nous fait perdre encore 3 ou 4 jours.
Et vous avez jusqu'au 17 mars pour les déposer.
Ça ne change pas.
Vous dites que les travailleurs vont être forcés de voter contre leur camp. Vous êtes consciente que vous ne serez pas au second tour?
Oui, je vous concède qu'il y a peu de chances que je sois. Mais justement, moi dans cette campagne, alors qu'il n'y a que ces grands candidats, hein, qui sont relayés, qui apparaissent comme susceptibles d'arriver au second tour, moi ce que je veux dire, hein, au monde du travail, c'est que voilà, aucun d'entre eux ne représente les intérêts des travailleurs, des ouvriers. Pour nous, le match est truqué. Les départager, les uns ou les autres, c'est voter contre son camp, c'est voter contre soi-même, contre ses intérêts. Donc, effectivement, il faut chercher un autre vote, autre expression.
Il y a des millions de travailleurs. Pourquoi ils ne votent pas pour vous?
Mais d'abord, vous savez que là, en l'occurrence, il faudrait d'abord qu'ils sachent que je suis candidate, ce qui est quand même pas forcément simple quand on n'est pas invité dans les débats et dans les émissions politiques. Hein. Et y compris quand on est invité, qu'on a un petit espace, c'est très rare d'avoir la possibilité, y compris de défendre véritablement ses positions, son programme et ses perspectives. Donc il y a une réalité hein, qui est celle-ci. On part pas. Y en a qui partent avec le vent dans le dos, on va dire. Hein, puis d'autres avec un gros boulet au pied. Bon, et puis et en même temps, c'est vrai que le vote auquel j'appelle, moi, c'est un vote qui est sans illusion électoraliste. J'en appelle à un vote de conscience, un vote de combativité. J'en appelle j'appelle les travailleurs à affirmer à la fois leurs intérêts et en même temps leur volonté de se battre pour ces intérêts-là. Parce que moi, je joue pas ce jeu de dire votez pour moi, vous allez voir ce que vous allez voir, je vais changer votre vie demain si j'arrive au pouvoir. Je ne dis pas ça. D'ailleurs, j'assume de dire que moi, je ne rêve pas de l'Élysée. Moi, je suis pas candidate pour prendre la tête du pays.
Mais est-ce que
parce que moi,
peu...
je veux pas prendre de responsabilité dans ce système qui est basé sur l'exploitation, sur l'oppression. Pour moi, dans cette campagne, je veux effectivement toucher la conscience, je veux toucher le cœur des travailleurs. Il faut qu'on exprime nos intérêts, nos revendications, qu'on se rassemble derrière un drapeau et derrière cette volonté de renouer avec les luttes collectives, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on changera notre sort.
Est-ce que ce n'est pas un peu décourageant de ne pas voir son travail, ses idées porter ses fruits au final dans les urnes?
Mais dans les urnes, ce n'est pas du tout c'est pas décourageant, parce que dans les urnes, si vous voulez, c'est relativement limité.
Ce n'est pas le partis.
Ce n'est pas le bon terrain hein, pour que les travailleurs ils soient conscients de leurs intérêts, parce qu'il y a effectivement toute une comédie hein, électorale, parce qu'il y a aussi une pression médiatique, il y a tout un système qui est très verrouillé. Vous savez, nos idées, elles passent au-delà de tout ça. Au-delà de tout ça, cette idée qu'il faut effectivement un bras de fer contre cette classe capitaliste, il faut contester ses décisions, contester son chantage, ses attaques au quotidien. Et ça doit se faire effectivement dans les entreprises, dans les quartiers, dans la rue, au travers des manifestations et des mobilisations. Ce sont des idées qui touchent, ce sont des idées qui passent. Et vous savez, il peut très bien y avoir, hein, y compris même avant l'élection présidentielle, une remontée des luttes, de la colère sociale. Et moi, je pense que ça serait quelque chose de salutaire. En tout cas, moi, je milite dans cette direction-là. Donc, c'est pas seulement, vous voyez, les voix qui se comptent dans l'urne.
Vous êtes plus militante que candidate à l'élection présidentielle.
Ah, mais je suis militante. Je suis militante, bien sûr, militante hein, des intérêts d'un camp, des travailleurs j'appelle effectivement à un autre geste, hein, pas seulement le geste de dire voilà, je vais voter pour quelqu'un. Non, c'est voter pour soi, pour ses intérêts, pour dire ce qu'on a sur le cœur, pour dire ses intérêts, pour dire encore une fois qu'on est prêt à aller à la bagarre pour défendre ses droits.
Il y aura deux candidats révolutionnaires à l'élection. Peut-être qu'il y aura peut-être deux candidats à l'élection présidentielle cette année. Enfin, les candidats révolutionnaires, Philippe Poutou du NPA et vous. Est-ce que vous avez déjà pensé à vous allier?
Vous voyez, déjà vous dites peut-être. Donc, ce qui est bien, c'est qu'en étant deux, on double nos chances. Vous voyez, qu'il y en ait au moins un. Non, mais réellement, parce que on a évoqué tout à l'heure les primaires de droite et de gauche. Vous avez signalé qu'il y avait plein de nuances. Hein, il y avait même 7 nuances de gauche, 7 nuances de droite. À l'extrême gauche, il y a 2 tendances, il y a 2 sensibilités différentes. Et moi, je ne vois pas pourquoi l'un ou l'autre s'effacerait.
Mais c'est déjà très proche quand même par rapport à Mélenchon, par exemple, comme vous avez dit tout à l'heure.
Et en même temps, nous défendons effectivement un certain nombre de choses ensemble. En même temps, il y a aussi des différences. Il y a des fois des désaccords sur un certain nombre de sujets. Il n'y a pas de raison l'un ou l'autre soit forcé s'effacer. Nous pensons qu'y compris à l'extrême gauche, il n'y a pas de raison qu'il y ait de parti unique, hein, les travailleurs, le courant, les centaines de milliers de gens qui regardent de notre côté, ils peuvent aussi avoir envie de s'exprimer au plus près de leurs convictions.
On vous avait dit tout à l'heure qu'il y a de nouveaux métiers qui arrivent. Il y a par exemple des startups qui naissent chaque année. Est-ce que vous soutenez cette initiative?
Non mais c'est marrant parce qu'il y a effectivement toute une mode, on parle que de cela, etc. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a de plus en plus de chômeurs dans la société. Que bien sûr, alors
ça enlève certaines personnes du chômage.
On les rebaptise auto-entrepreneurs, mais beaucoup beaucoup ne gagnent pas leur vie en essayant de créer leur petite activité. Et vous savez, regardez comment dans les pays les plus pauvres de la planète, les auto-entrepreneurs, on en trouve à tous les coins de rue. Il y en a qui vendent des Kleenex, il y en a d'autres qui vendent des briquets ou des boîtes d'allumettes. Hein, ils sont auto-entrepreneurs. Hein, et parce que justement, il y a un chômage de masse, parce qu'il y a une misère et les gens ils doivent se débrouiller pour vivre. Alors aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on va de plus en plus dans cette situation-là, vous voyez, où justement, comme on condamne de plus en plus de jeunes, de moins jeunes au chômage, hein, et ben on essaye d'inventer alors sa petite friterie, son petit truc.
Il n'y a pas que des friteries dans les startups, il y a des métiers dans l'innovation.
Ah, alors après là, vous me parlez de ceux qui décrochent effectivement le Graal, qui arrivent à avoir les financements, les capitaux, etc., etc. Bon. Bien sûr, il y a une minorité qui arrive, le système il est basé aussi sur tout ça. Mais moi je pense pas qu'on puisse faire miroiter comme le rêve pour l'ensemble de la population. Je crois que c'est beaucoup un mirage.
Alors, vous dites que la situation a empiré pour les ouvriers. Qu'est-ce qui vous fait dire ça exactement?
C'est le nombre de chômeurs, c'est la multiplication des petits boulots, c'est le nombre de femmes et d'hommes qui sont en dessous du seuil de pauvreté, qui n'arrivent plus à se soigner, les gens dans la rue, ce sont ces inégalités, c'est le recul de la condition ouvrière en général, y compris ceux qui travaillent, y compris ceux qui bossent, On peut travailler, passer sa vie au boulot, y passer sa santé et rester et être pauvre, être surendetté, ne même pas réussir, parfois même à payer son logement. Combien il y a de jeunes qui bossent, qui sont obligés d'aller retourner chez vivre chez leurs parents. Donc on est dans cette situation là. Oui, bien sûr, il y a un recul de la condition ouvrière.
Merci Nathalie Arthaud.
Merci beaucoup Samuel Saint-Sinatus.
20h 21h, c'est 2017 l'invité. Sur Fréquence ESJ et Radio Airshow.
20h51 sur Fréquence ESJ et Airshow, c'est la dernière partie de notre émission et nous avons un second invité dans notre studio, Nathalie Arthaud. Est-ce que vous connaissez Thibaut Delmarle?
Non.
Qui n'a pas un nom de famille facile à prononcer d'ailleurs. Bonsoir Thibaut.
Bonsoir.
Alors Thibaut s'est fait connaître en début d'année scolaire, septembre-octobre je crois, puisque il s'est fait élire délégué grâce, je vais vous laisser expliquer.
Grâce à une vidéo qui a été publiée sur Facebook, la vidéo de mon discours pour me présenter à l'élection des délégués de ma classe.
Voilà, qui a repris la célèbre anaphore de François Hollande, moi président en moi délégué. Voilà. Déjà, est-ce que ça a fonctionné?
Oui, ça a fonctionné, je suis délégué de ma classe cette année.
Donc Thibaut a été élu grâce quelque part à François Hollande?
Un petit peu, peut-être.
Ouais. Oui, voilà, il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Qu'est-ce qui influence la politique chez vous, Thibaut?
Qu'est-ce qui influence la politique chez moi?
Comment la politique a influencé en tout cas? Parce que le moi délégué vient pas de nulle part, je suppose qu'il y a des influences politiques.
Non, pas forcément, c'est juste qu'on voit que c'est avec des phrases percutantes comme ça. On voit souvent dans les médias des phrases percutantes qui sont affichées je sais pas sur les bandeaux des chaînes d'infos, ce genre de choses. C'est percutant, c'est ce que les gens retiennent. Et c'est justement avec la répétition, l'anaphore, on peut, même si on dit un peu n'importe quoi, et ça passe en fait.
Vous êtes d'accord avec ça, je suppose?
Ça s'appelle
Nathalie
la langue
Arthaud.
De bois.
Voilà,
c'est ça marche. C'est de la communication politique.
Ça, il y a pas mal de langues de bois en ce moment. Ouais.
on parlait de com, par exemple, avec Marine Le Pen et le voile, c'est exactement ça. C'est quelque chose de percutant que les gens vont retenir.
Ouais, mais moi je vais me battre pour qu'il y ait un vote de conscience, pour qu'on ne s'arrête pas à tout cet affichage-là, qui est une véritable escroquerie, et puis pour que, moi j'ai envie quand même de m'adresser justement, encore une fois, aux travailleurs, aux ouvriers, aux chômeurs. Qu'est-ce qu'il y a de plus important pour nos vies?
Plus au fond qu'à la forme, en tout
qu'est-ce
cas.
Qu'est-ce qu'il y a de plus important? Quels sont nos intérêts fondamentaux? Qu'est-ce que c'est? C'est un emploi, c'est un salaire, c'est une retraite décente, c'est le droit d'avoir un logement, un toit sur notre tête. C'est tout simple qu'on en revienne à cela. Et effectivement, toutes ces phrases qui sont montées en épingle, tous ces événements-là qui sont super médiatisés, ça fait partie d'une comédie électorale que moi, je rejette.
Et Thibault, vous qui vous êtes fait connaître, en tout
c'était
cas
des humour, bon, en tout cas, c'était
oui, voilà, enfin, en tout oui. cas, ça a fonctionné.
Oui, oui.
Humour ou non, ça a fonctionné. Vous êtes déjà engagé en politique ou pas du
tout? Ah non, pas du tout. Je compte pas le faire non, du tout.
Jamais?
Jamais, jamais. Non, non.
Pourquoi pas?
Parce que je voudrais plus faire du journalisme, donc je pense que pour moi c'est pas quelque chose qui
c'est pas compatible. Il ouais. y a des gens, ils deviennent maire de Béziers après avoir fait du journalisme, vous savez.
Bah, ça, peut-être qu'après avoir été journaliste, je ferai un parti, mais non, pas pour le moment en tout cas.
Et justement, donc Thibaut parlait de communication politique et de politique. Aujourd'hui, la politique, bon, il y a des gens comme Nathalie Arthaud de conviction, comme vous le dites. Est-ce que vous pensez, Thibaut, donc qui est beaucoup plus jeune, que aujourd'hui la politique, c'est plus une affaire de conviction, c'est fini?
Non, je pense pas, parce que quand même les gens, enfin les électeurs se retrouvent vraiment dans un candidat par rapport à leurs idées. Bon, il y a quand même certains candidats qui les gens se retrouvent dans ce candidat pour leur personnalité. On peut penser à Emmanuel Macron, mais il y a quand même des idées de certains candidats où les gens se retrouvent vraiment, et c'est vraiment la conviction des gens. Je pense que les gens s'identifient vraiment à leur candidat, je pense.
Ce que vous disiez à Nathalie Arthaud, que les gens votent trop pour quelqu'un et pas assez pour eux.
Oui.
Bah, en tout cas, le système pousse à ça. Hein, le type de campagne pousse à ça, effectivement, de s'accrocher à quelques postures, etc. Hein, et puis voilà, tout ce qu'on, quand on nous explique, c'est la rencontre entre un homme et puis un peuple. Enfin, tout ça, c'est en plus la réalité, c'est qu'on vote quand même pour tout un personnel politique qui, au bout du compte, est complètement dépendant de ceux qui pèsent sur l'économie, de ceux qui tiennent l'économie, c'est-à-dire qu'ils sont dépendants en fait d'une grande bourgeoisie, d'une classe capitaliste. Et une fois qu'ils arrivent au pouvoir, ben ils ont au-dessus d'eux, hein, ben, ces donneurs d'ordre là qui leur disent, ben nous, voilà, on attend qu'il y ait cette politique et pas une autre. Hein, hein, et donc au bout du compte, on fait effectivement tout ce, hein, tout ce cirque électoral pour élire des pantins, des marionnettes qui sont actionnés. Hein, par des puissances supérieures, qui sont des puissances économiques, financières, capitalistes.
Une dernière question, Nathalie Arthaud. Vous défendez le droit des travailleurs pour Thibault, par exemple, qui n'est pas encore dans le monde du travail, comme nous, d'ailleurs, ici. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à cette classe d'âge, aujourd'hui?
Bah, j'ai envie, au-delà des intérêts immédiats, de dire, bon, bah voilà, l'avenir, c'est quoi? J'espère que c'est un boulot, c'est un projet, mais aux jeunes, j'ai envie de les interroger sur qu'est-ce qu'ils pensent, hein, de la direction que prend la société, le monde. Moi, j'ai envie, voilà, qu'est-ce qu'ils pensent, hein, de ces inégalités, de toutes ces injustices, qu'est-ce qu'ils pensent de ces guerres, qu'est-ce qu'ils pensent de cette concurrence acharnée qui pousse à l'individualisme, qui pousse à la compétition les uns entre les autres, qu'est-ce qu'ils pensent du nationalisme, de la xénophobie, qu'est-ce qu'ils pensent de tout cela? Moi, je crois que le système, il pousse à tous dans cette direction, qui sont réactionnaires, qu'il faut absolument combattre. Donc moi, j'ai envie de leur discuter, voilà, dans quel monde vous avez envie de vivre, hein, vous les jeunes, parce que le monde là que cette classe capitaliste, hein, est en train de nous faire, eh bien il est de plus en plus barbare. Voilà la réalité.
Fréquence ESJ.